Éduque Pop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Bonjour, je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP, comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société. On s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous serons avec vous une fois par mois pendant 30 minutes pour vous partager notre passion pour l'éduc-pop. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue selon nous l'éducation populaire et nous découvrirons des sujets, des outils et des invités au fil des émissions. Bienvenue dans Éduc-pop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, c'est quoi le sujet, Valou ?
Aujourd'hui, on parle de la fête. Parce qu'avec le retour des beaux jours, la programmation des festivals de cet été, on a eu envie de parler de fête. Et avec les teufs pour décompresser, les soirées de soutien, les déambulations comme la Pride, les drag shows, la Batucada en manif, l'expression de la teuf dans les milieux militants est présente sous plein de facettes différentes. En même temps, la semaine dernière, la droite à l'Assemblée nationale n'a rien trouvé de mieux à faire que de porter une loi pour réprimer encore davantage l'organisation des rave parties, comme si ça pouvait leur foutre quelque chose que des gens passent du bon temps dehors à danser hors de leur radar. Enfin si justement, ils trouvent ça sûrement trop libre, trop collectif, trop insaisissable, ingouvernable, autogéré, quelle horreur. Alors nous, ça nous a plutôt donné envie de nous pencher sur cette question de la fête, de son rapport à l'engagement militant et à l'éducation populaire. Comment la lutte devient festive ? Pourquoi c'est intéressant dans une démarche d'éduc-pop ? La fête peut-elle être politique ? Quel message la fête peut-elle porter ? Quel public peut-elle toucher ? Et comment ça se passe ici à Valence ? Alors pour parler de tout ça, aujourd'hui on a eu l'envie d'inviter Kat et Jo. Bonjour.
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 Et pour nous parler de ce sujet de la fête et de la politique, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Kat par exemple ?
Je me suis engagée tardivement dans la vie associative avec la création d'une association d'autodéfense féministe. Et pour cette occasion, j'avais envie d'organiser des fêtes chez moi. Donc j'ai décidé d'organiser des fêtes dans le cadre de cette association, chez moi, à entrée libre pour tout le monde, c'est-à-dire en faisant la publicité dans toute la ville. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à organiser des fêtes.
Ok, trop bien. Et toi, Jo, quelques mots ?
Moi, je suis arrivée à Valence il y a 2-3 ans et je trouvais que ça manquait un petit peu de soirée LGBT générale. Et du coup, l'année dernière, j'ai eu l'idée aussi de participer à l'organisation de fêtes.
Ok, trop bien. Voilà. Est-ce que tous les deux, vous avez toujours aimé faire la fête ? Est-ce que tous les types de fêtes vous plaisent ou est-ce qu'il y en a qui...
Ah, moi, non, pas du tout. Moi, pas du tout. J'étais très mal à l'aise en soirée, etc. Donc, c'est vraiment venu sur le tard, post-quarantaine, on va dire.
Ok.
Moi, oui, j'ai toujours aimé. Après, ça dépend des endroits, de l'objectif de la fête, etc.
Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que la fête pouvait être politique ou parce que c'est plutôt dans certains milieux politiques, même on trouve ça trop chiant que, enfin, en fait, la politique c'est une chose sérieuse. Enfin, on veut changer le monde, on veut faire la révolution, et c'est une chose sérieuse et on n'a pas d'énergie à perdre à faire la fête et à se dandiner toute la nuit.
On fait des réunions, pas des fêtes.
On fait des réunions, exactement.
Est-ce que c'est politique, c'est ça la question ?
Oui, à quel moment toi tu t'es dit « Ah, mais il y a un lien en fait entre faire la teuf et changer le monde »
Oui, je pense pour des personnes qui peuvent être minorisées ou quoi, ça peut être un moyen de politiser sa fête, la fête.
Oui, moi, je l'ai pas forcément conceptualisé au départ, mais voilà, c'était une association d'autodéfense féministe. J'avais envie d'une fête où les femmes se sentent en sécurité, donc c'est forcément politique, parce que n'importe quelle fête, pour prendre l'exemple de la boîte de nuit à la boum de quand on est plus jeune ou moins jeune, y a une reproduction des fonctionnements sociaux. Quel qu'il soit, en particulier moi je m'intéressais à la question du genre, et donc oui, faire une fête où les femmes en l'occurrence se sentent en sécurité, c'est hyper politique et c'est un sacré boulot, parce qu'après donc ça a switché, enfin ça s'est étendu à faire des fêtes pour d'abord les personnes lesbiennes, ensuite les personnes LGBT avec Jo. Et on s'aperçoit bien que c'est politique, puisqu'on est obligé de mettre en place toute une réflexion, un fonctionnement, des affiches, des informations, même des briefs des personnes qui rentrent, pour essayer de s'assurer qu'il n'y aura pas de comportement relou, on va dire. C'est éminemment politique.
C'est des fêtes en mixité choisie, du coup ?
Pas forcément. Enfin, les premières que j'ai organisées pour Titane, non. Puis un jour, j'ai eu l'idée de faire une fête pour les 8 mars avec que des femmes. Ça m'a traversé la tête comme ça. Et donc, c'était absolument extraordinaire. Donc, c'est venu petit à petit. Oui, la mixité est choisie. Mais je voudrais quand même répondre sur pourquoi c'est politique de faire la fête. C'est politique parce que c'est un acte sociétal. Donc, forcément, il est politique. Mais c'est aussi politique parce que si on ne fait pas la fête, quand on combat, moi, je dis carrément, on meurt. C'est peut-être un peu fort, mais je vois Jo qui approuve.
Oui, on peut avoir ce besoin-là, en tout cas pour une partie des personnes.
Ah, c'est extrêmement dur, le combat politique.
C'est extrêmement dur. Et du coup, c'est des espaces aussi de décompression, de liens, de vivre autre chose entre nous, entre militants, que juste des réunions froides et stressantes. Et au moins, oui. Là, on se retrouve...
C'est une manière de se recharger, de recharger de l'énergie, de recharger de la joie aussi, de la joie.
Et du coup, tu disais que vous organisez ensemble, j'ai l'impression, des soirées maintenant LGBT à Valence. Comment ça s'appelle? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se passe?
Alors, on en a fait plusieurs, dans plusieurs endroits. En fait, en collaboration avec des lieux, des bars, à Valence,
ouais.
De différentes tailles. Il y a eu grosses soirées, petites soirées, moyennes soirées.
Et ce qui est très important, c'est qu'on ait un collectif qui s'est créé comme ça, un peu tout seul. Par affinité aussi, mais on ne se connaissait pas forcément. Et puisqu'on est dans les ducs pop, moi, ce que j'aime beaucoup sur la manière dont on fonctionne, c'est que la voix de tout le monde compte, tout le monde discute. Alors là, on vient de fonder une association parce qu'on a un peu de sous. Bon, très peu, mais on en a un petit peu quand même. Et qui est réinvesti pour acheter des choses, des bouchons d'oreilles, par exemple, pour les prochaines soirées, pour payer les artistes, etc. Puisque, évidemment, on y tient. Et donc, on vient de décider de fonctionner par consensus. Ce qui était déjà le cas. Donc, on n'est pas nombreux. On essaye de rester pas nombreux. C'est peut-être la différence.
Un groupe d'une dizaine, du coup?
Ouais, même pas. On est 7.
Ouais.
Okay. C'est ça.
7-8.
Et consensus, c'est quand tout le monde est d'accord pour prendre une décision.
Alors, tout le monde est d'accord, mais au départ, tout le monde n'est pas d'accord. Comme je viens de découvrir comment ça s'appelait, ce qu'on faisait depuis un certain temps, c'est pour ça que je suis toute fière.
Bah oui, tu peux nous en parler un peu.
Voilà, ouais, j'ai compris que voilà, quelqu'un lance une idée, peu importe, je ne sais pas que c'était quoi la dernière... comment on décide dans l'association? Tiens, donc est-ce que c'est à la majorité, ce qui se fait classiquement, ou à l'unanimité? Et donc, on a adopté ce consensus, au départ, on n'est pas forcément tous d'accord. On discute. La voix de tout le monde est entendue, éventuellement plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a une réaction à ce qu'a dit quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et à la fin, petit à petit, on arrive à se mettre d'accord. Mais ça repose beaucoup sur la confiance et l'expérience d'avoir organisé des choses avant. J'ai l'impression.
Et les personnalités, peut-être aussi.
Justement,
ça
voilà.
Ça fonctionne.
Qu'on connaît.
Et du coup, ça vous apprend des choses aussi d'organiser ces soirées? Ça vous apprend dans votre vie militante et politique ou...
Sûrement, Mais comme tous les trucs qu'on apprend, je ne suis pas sûre de savoir les dire.
On apprend à organiser des soirées déjà.
Oui.
Ah bah on apprend beaucoup de choses, les relations avec les bars, les relations avec les gens, ce qui peut se passer dans les soirées qu'on est amené à gérer. Bah avec Jo, on est tous les deux allés suivre une formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles en soirée et la réduction des risques par rapport à l'usage de produits...
drogue,
festif.
Oui. Oui, c'est ça.
Et du coup, vous mettez en place des dispositifs pour...
On essaye. Ouais. On essaye.
Avec un exemple, par exemple, en prévention et gestion des VSS.
Moi, par exemple... Ah, prévention et gestion des VSS.
Bah, ouais. En fait, déjà, le fait d'en discuter, d'en parler, de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, qui prendra en charge ça, etc. Donc on essaye de se former petit à petit, etc. Ou de collaborer avec des associations, mais on débute, on démarre.
Bah, surtout, ce qu'on fait par rapport au public qui fréquente les soirées, c'est qu'en fait, on a un discours à l'entrée avec tout le monde, donc ça prend un peu de temps. Avec le temps, on a institué un système de bracelets de couleurs, qui est une solution critiquable, mais aussi très utile. C'est-à-dire qu'on a mis un système de bracelets de couleurs où, en gros, rouge, ça veut dire « je ne veux pas être draguée ce soir
okay. ».
Mais l'intérêt surtout de ça, c'est qu'en fait, on explique à tout le monde ce que signifient les bracelets. On leur demande de choisir lequel ils veulent, ils, elles veulent. Et de ce fait, tout le monde entend une explication sur le consentement. Et sur le fait qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie d'être dragués, et que de toute façon, même ceux qui ont envie d'être dragués, on peut plaisanter en disant « mais de toute façon, le consentement se respecte dans tous les cas
ouais, ». C'est de la pédagogie éclair, en fait.
Mais exactement, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Pédagogie éclair.
Ah d'accord.
C'est moi qui viens de...
Nouveau concept d'éduc-pop.
C'est ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en glissant trois phrases, on alerte les gens sur le fait qu'ici, on ne déconne pas.
Et on vous voit, quoi.
On nous voit, voilà. Après, peut-être qu'on va découvrir dans 10 ans que des choses affreuses se sont passées qu'on n'a pas su, parce qu'il ne faut pas non plus s'illusionner.
Et vous ne serez pas responsable absolument de tout.
Mais... Oui, merci de nous le dire, mais quand même, je pense qu'on sera mal si on l'apprend.
C'est ça.
On va faire une petite pause musicale avant de reprendre cet échange passionnant. Jo, tu nous as proposé d'écouter « Sans contrefaçon » de Mylène Farmer. Alors, on va écouter ça.
Tout seul dans
on est de retour dans l'émission Éduque Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et du coup, on échangeait avec Kat et Jo sur l'organisation de teufs militantes queer LGBT et qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre ces espaces plus safe. On parlait de la prévention des violences sexistes et sexuelles, mais aussi niveau drogue, consommation d'alcool, qu'est-ce que vous arrivez à mettre en place pour limiter les...
On a collaboré notamment avec l'association ENIPS, donc à une soirée qui avait pu venir et avoir un stand. Et donc du coup, pendant la soirée, des personnes pouvaient faire... il y avait de la RDR au niveau de la santé sexuelle.
Donc réduction des risques.
Réduction des risques, voilà, RDR, ouais, c'est ça. Et possibilité de faire des tests VIH, par exemple, pendant la soirée. Et ça avait fonctionné, voilà. Donc ça peut avoir une utilité. Après, sur la réduction des risques au niveau consommation de stupéfiants, là, ça peut être plus problématique dans le sens où les lieux qui nous accueillent ne sont pas forcément à l'aise qu'il y ait des produits en libre disposition, etc.
Enfin, des produits...
Oui.
pas des produits stupéfiants, mais des choses pour aider à les prendre en toute sécurité.
C'est ça. Ouais. Comme par exemple des roules tapailles ou même des aiguilles ou des choses comme ça. Ce qui est conseillé dans la RDR, mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a les lieux qui nous accueillent, ou les bars en général, je pense, sont un peu hostiles à ça.
Parce que ça les confronte trop à la consommation de produits sur leur lieu et...
Bah, je pense que c'est la, comment dirais-je, les effets de la répression. La réduction des risques, le principe, c'est de dire de toute façon, les gens vont consommer, donc tant qu'à faire, autant les aider à le faire d'une manière qui ne mette pas en danger leur santé et celle des autres. Et que les bars, comme ils sont confrontés à la répression aussi, ils ne sont pas forcément à l'aise pour...
De visibiliser la consommation.
Voilà, exactement. Ouais.
Voilà. Mmh. Ok.
Donc c'est une question complexe, mais ça se travaille peut-être avec le temps.
Ouais. Mais moi, je comprends aussi, hein, quand oui. On s'est formé, moi, je suis... Enfin, comment elle m'a dit que
la toxicophobie.
Voilà, je me suis aperçue que j'étais toxicophobe, donc parce qu'effectivement, je jugeais la consommation de produits en excès, y compris l'alcool. Hein, en tant que femme qui lutte contre les violences de genre, je vois quand même que l'alcool, qui est une circonstance aggravante, est vue comme une circonstance atténuante, que ça rend... Ça ne nous fait pas forcément donner le meilleur nous-mêmes au-delà d'un certain seuil.
Ça facilite le passage
voilà,
à la violence.
Donc, c'est toute une démarche dans la tête pour ne pas juger et être en mode essayant d'éviter que ça arrive plutôt que juger.
C'est ça. Sachant que l'alcool, contrairement à ce qu'on peut penser, est la première drogue qui est en lien avec des VHSS, il me semble, de ce qu'on a dit.
Des violences sexuelles.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous voyez que dans vos soirées, il y a une consommation d'alcool modérée avec pas mal de personnes qui ne consomment pas ou est-ce que ça... pas spécialement ?
Franchement, c'est, je dirais, normal. On voit peu de personnes complètement ivres. Ouais. Quand ça arrive, on essaye de faire quelque chose, de raccompagner la personne, etc. Et il y a une demande en boisson sans alcool. Qu'on sent monter comme dans toute la société.
Ok. Et alors, du coup, moi, j'avais envie d'en savoir plus sur les soirées que vous organisez. Par exemple, j'avais beaucoup entendu parler de la Chill and Gwyn. Kat, est-ce que tu as envie de nous raconter ce que c'est ?
Oui, ce sont des soirées qui ont été créées par plusieurs personnes lesbiennes pour qu'il y ait un lieu, justement, à la fois de sécurité pour les femmes, alors lesbiennes, bi, pan, pourvu que j'en oublie pas, et de rencontres, parce que le problème dans le fait de pas être hétéro, c'est de faire des rencontres, et pas forcément des rencontres à caractère amoureux ou sexuel, mais tout simplement comme pour tous les gens qui, on va dire, vivent des oppressions ou des situations de haine, de discrimination, pouvoir se parler entre soi. Donc, voilà. Donc, c'est cette idée au départ. Il y a beaucoup de femmes hétéros qui viennent et qui sont bienvenues. pour, parce qu'elles se sentent aussi en sécurité et il y a une joie particulière dans ces soirées. Et on a commencé à la réserve, qui hélas vient de fermer. Et quand vous rentrez dans la réserve et que vous voyez 50, 60 femmes en joie qui dansent toutes ensemble et avec un bonheur qui se voit, moi je fais un genre de sécurité à l'entrée, donc je ne danse pas, je suis vigilante. Mais alors à regarder, c'est... C'est génial.
Hyper rechargeant. Juliette, il me semble que tu as déjà fait des soirées comme
oui.
ça. Est-ce que...
oui, oui.
C'était comment pour toi ?
Je l'ai loupé pendant à plusieurs reprises et j'ai pu y aller il y a, je pense, 3 mois, 4 mois. C'était à la réserve et c'était trop bien. C'était vraiment incroyable. Alors, malheureusement, je suis arrivée trop tôt et moi, je suis très, très mauvaise en small talk. Donc, ce moment où je suis toute seule avec mon verre sans alcool et je ne sais pas quoi faire de mon corps, c'était pénible. Mais une fois que la musique a été lancée et il y avait DJ Letty, non, comment elle s'appelle ? Letty.
Tatissia
qui mixait et c'était vraiment trop bien. Une fois que j'ai commencé à danser, c'était super. Parce que je crois que c'était une des premières fois que je dansais sans me soucier de ce que pouvait renvoyer mon corps ou mon attitude ou mon comportement. Sans me dire, ok, en fait, je vais être sexualisée et ça va pouvoir avoir des conséquences. Et juste, je dansais pour le kiff. Et vraiment, c'était la première fois, en fait.
C'est absolument incroyable qu'on doit attendre 35 ans pour vivre ça.
Donc, méga merci pour organiser ces soirées.
Alors, c'est vrai qu'on aurait aussi envie de pouvoir faire en sorte que les gens se parlent. Donc, de faciliter les échanges. On a essayé plusieurs petits jeux sociaux. Mais c'est difficile. On n'a pas encore trouvé la question. Donc, si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas à nous contacter sur... Il y a un Insta, Chilanguage, je ne sais même pas. Bon, sur l'Insta de Folie Pailletée, ça sera pareil.
Pour aider les small talks du début.
Voilà, pour aider à faire connaissance en dehors de situations de drague, en fait.
Et oui.
Voilà, parce que les gens se débrouillent très bien pour draguer tout seul.
Des sortes de brise-glace, vous voulez dire ?
Voilà, des sortes de brise-glace, des choses comme ça, mais c'est pas si évident. Et puis donc, ça plaisait tellement ces soirées. Il y a des hommes gays, bi, enfin non-hétéros qui venaient. Et on a décidé de les étendre aussi à ces messieurs en faisant des soirées LGBTIAQ+.
Et Joe, est-ce que tu veux nous en parler ?
Les Folies Pailletées, donc voilà. Donc après, les Folies Pailletées se sont créées comme ça, avec Letty et Kat, qui ont beaucoup aidé déjà pour la première. Et après, on a monté un collectif ensemble avec d'autres personnes. Et voilà, donc après, c'est des soirées. C'est un format qui est... Enfin, du coup, c'est 2 fois dans l'année. Peut-être qu'on en fera 3, on verra.
Oui, c'est selon notre énergie, parce qu'on est tous bénévoles et on a tous une vie à côté.
C'est ça. Selon les disponibilités des salles aussi, c'est pas forcément simple de trouver un lieu. Et du coup, c'est un peu des plus grosses soirées, on va dire, parce que le lieu est souvent plus grand. Et on peut permettre de faire venir des artistes queer pour diffuser de la culture queer localement, des drag shows, etc. Donc voilà.
Et faire communauté plus large.
Oui, et c'est. Alors on remercie énormément le Vex qui a accueilli la deuxième. On remercie énormément la réserve qui a accueilli la première. C'était beaucoup trop petit. Oui. Le Vex, il y a eu 350 personnes qui sont venues à cette première soirée. Donc il y a une demande, puis il y a une joie. Et récemment, on en a fait une au bar, qui n'est pas un bar public, qui est réservé à des événements. Du bowling de Bourg-les-Valences chez Simone. Et les personnes qui étaient derrière le bar, donc les professionnels du lieu, nous ont dit « mais c'est une des meilleures soirées privées qu'on a jamais fait ». C'est-à-dire qu'il y a une espèce de joie et de douceur en même temps. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi l'imputer. C'est vrai que j'ai un peu envie de dire « il n'y a pas de groupe de mâle ». Qui viennent danser en prenant toute la place. Il y a une histoire de manière de danser et de prendre la place.
Et de respect des uns des autres.
Ouais, c'est ouais. Danser en pensant que l'autre est là. Et on voit bien, Juliette disait tout à l'heure, c'est la première fois que j'ai dansé sans penser aux autres, mais elle pensait pas au regard sur elle, du coup. Mais forcément, quand elle dansait, l'espace qu'elle prenait, elle faisait attention aux autres. Voilà. Et quand il y a des groupes d'hommes, en plus, j'allais dire avinés, enfin alcoolisés, ils font pas ça, parce qu'ils sont pas socialisés comme ça. C'est très triste, parce que franchement, on ferait bien la fête avec eux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc il y a une douceur et une joie, mais une joie, je l'ai déjà dit.
Et pour terminer là-dessus, en parlant de joie, justement, moi, j'ai été marquée par la Pride de Valence de l'année dernière, qui était hyper colorée, hyper joyeuse et aussi, du coup, hyper jeune. Enfin, oui. Et il y avait deux groupes de musique qui étaient sur des chars, enfin, sur des véhicules. Enfin, j'ai trouvé ça, pour une ville de la taille de Valence, vraiment extrêmement vitaminée. Et nous, j'avais envie de vous demander quand est-ce qu'est la prochaine. Est-ce que vous savez que si ça reprend ce même code joyeux et festif?
Oui, la prochaine, donc ce sera le 16 mai prochain à Valence. Okay. Voilà, il y aura plusieurs événements d'ailleurs sur plusieurs jours. N'hésitez pas à suivre l'Insta de l'association Valence Diversité qui organise la Pride. Et oui, donc il y aura un char, voilà.
Et moi, je suis très heureuse de pouvoir un petit peu contribuer. Jusqu'à maintenant, je conduisais le camion parce que comme j'ai le bénéfice du grand âge, je suis calme et ça me va de rouler à 2 km/h. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer parce que chaque fois, je vois ces jeunes qui sortent jamais. Il y a des gens qui critiquent en disant « mais pourquoi ils se montrent ?» Mais ils ne se montrent pas, ils sont juste heureux d'être ensemble et que pour une fois, leur place dans l'espace public soit normale, en fait. Et donc, effectivement, c'est très jeune, ça me frappe depuis le début. Et donc, je me dis, ils n'ont vraiment pas d'endroit. Ils ne viennent pas trop à nos fêtes, mais bon, c'est un peu normal parce qu'ils ont l'air mineurs. Mais oui, voilà, il y a cette jeunesse qui a besoin de ce moment, je le pense sincèrement.
Ça répond à un vrai besoin. Mmh. Et donc, ça fait péter le couvercle de la joie et de se sentir ensemble. Mmh. Bon, merci beaucoup, Joe et Kat, pour cet échange. Alors, Juliette, c'est quoi les prochaines dates de CEP?
Alors, dans les prochaines dates, le 23 avril, il y a un arpentage que tu vas animer, Valou.
Tout à fait, au Cause Toujours, sur un livre, On s'est battu pour les gagner, histoire de la conquête des droits sociaux en France.
C'est à quelle heure?
18h30. C'est pour se mettre en jambes pour le 1er mai, une semaine après.
Yes, trop bien. Le 28 avril, il y aura Question brûlante, Question puissante, qui est un nouveau format qu'on va animer. Ce sera toute la matinée de 9h à midi, et ensuite on a un repas partagé ensemble. Le principe, c'est politiser des enjeux personnels en mixité choisie sans homme cis. Et la première thématique, ce sera sur le travail. Ensuite, le vendredi 15 mai, on passe au mois de mai, il y aura une formation Redécouvrir l'éducation populaire que tu vas animer, Valou.
Une journée d'introduction ou de retrouvailles si vous connaissez déjà, mais vous avez envie de revoir vos bases là-dessus.
Ce sera où?
À la MPT de Chauny.
Et parallèlement, donc du 14 au 16 mai sur 3 jours, il y aura une nouvelle édition du stage Même Pas Mal que j'anime avec Ellie. Donc on parlait de groupes de mâles blancs qui prennent de la place et qui sont socialisés comme ça. Et bah, ce sera tout à fait l'occasion de questionner cette socialisation et notamment d'acquérir et de développer des compétences socio-émotionnelles qui sont quand même la base pour avoir des relations saines et de conjuguer ça avec les demandes et le discours féministe. Pour faire des vrais alliés des hommes. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site de CEP ou notre Instagram. Et enfin, le 29 mai, il y aura la première journée du Parcours des Possibles, qui sera une suite de 3 journées pour aller vers l'engagement. Donc cette première journée, ce sera sur une montée en connaissance. Qu'est-ce qu'il faut dans notre bagage pour pouvoir nous engager dans des assos, pour pouvoir nous mettre à militer quand on n'y connaît rien. Des fois, ça peut être un peu effrayant. Et bien là, on va se renseigner, voir tout ce qu'on sait déjà et faire ce baluchon pour pouvoir passer à l'action.
Et pour la fois prochaine, pour l'émission de mai, on vous propose de parler écologie et lutte environnementale et comment l'éduc pop peut servir à toucher des personnes qui sont encore très sceptiques vis-à-vis de cette question et voilà, comment on peut utiliser des moyens détournés pour aller sensibiliser les personnes aux enjeux climatiques.
Trop bien. Eh ben, c'était Juliette et Valou dans l'émission Éduc Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde? Éduc Pop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.